Dans le livre des Proverbes, on a un verset qui établit un principe divin, principe fondamental. Je lis ce verset. C'est Proverbes 3, verset 33. Je vais lire tout le verset. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant et il bénit l'habitation des justes. Alors disons tout de suite que on le sait que dans l'Ancien Testament, le méchant et le juste nous montrent que d'un côté ce sont les incrédules, les incroyants, et les justes sont les croyants. Donc il y a là quelque chose de fondamental qu'on retrouve effectivement selon la pensée de Dieu dans la Genèse. Et ce principe, c'est que Dieu bénit l'habitation des justes. Autrement dit, que du côté de Dieu, il ne manque rien. S'il manque quelque chose dans une maison chrétienne, c'est bien la faute de ceux qui la composent, et en particulier des parents, bien sûr. Cette pensée est précieuse, c'est que, comme Daniel l'a dit tout à l'heure, du reste, Dieu a la pensée toujours de bénir dans le foyer.
J'aimerais parler d'un foyer un foyer béni, peut-être un foyer un peu spécial, mais qui est rapporté dans la Bible, c'est le foyer de Marthe, de Marie et de Lazare. On peut dire que ce foyer-là était un foyer où une lampe brillait énormément. Un foyer où le Seigneur aimait se rendre. Un foyer où le Seigneur, comme il est dit ailleurs, a pu boire de l'eau dans le torrent, se rafraîchir alors que les difficultés étaient là pour lui. Un foyer aussi qui, lors de la difficulté, a su se tourner vers le Seigneur aussi. Et je crois que ce foyer-là est un exemple pour nous, avec tous les membres qui s'y trouvent, qui ont tous une place différente, mais qui ont une place aussi que l'on peut étudier et qui est très bénéfique pour chacun de nous.
Le verset « Certes, il bénit l'habitation des justes » nous laisserait penser que finalement, dans un foyer chrétien, il n'y aura jamais d'orage. Dans les réunions de mariage, quelquefois, quand on lit la fin de Matthieu 7, quand on pense à la maison fondée sur le roc, on présente cela comme un foyer qui s'est confié en Christ. Et combien c'est vrai? Combien ça a toute sa place? Et puisqu'il est fondé sur le roc, il ne faillira jamais. C'est vrai. Si on regarde bien le texte de Matthieu 7, qu'est-ce que dit le Seigneur? Pense à ce que disait Daniel à l'instant en parlant de la responsabilité. Et c'est vrai d'une manière générale de tout ce que Dieu donne. Le Seigneur ne donne pas une garantie absolue. Il dit simplement au verset 24 de Matthieu 7, « Quiconque donc entend mes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison. » Et elle n'est pas tombée car elle avait été fondée sur le roc. Autrement dit, la vraie portée du texte, c'est la responsabilité. Sans nul doute y a-t-il la pensée que Dieu bénit, il veut toujours bénir, mais il met cette bénédiction entre nos mains. Il nous laisse le soin de gérer les choses et de les gérer, comme cela a été dit, en respectant sa parole et en la mettant en pratique. C'est ce qui a été lu dans la première épître de Jean. Par ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. C'est un point un petit peu difficile. Quand on commence une vie à deux, on n'a pas toujours ça présent à l'idée. Et quand, dans une réunion de mariage, on entend un frère qui dit « Vous aurez des orages dans votre vie », ça surprend un peu. Mais en fait, c'est véritablement ce que le Seigneur dit. Appliquez-vous à mettre en pratique la parole, tout ce qui est dans la parole, et c'est véritablement la construction en briques qui est là, la responsabilité. Et ce sont comme deux rails parallèles, d'un côté, le côté de Dieu, qui ne saurait manquer la bénédiction, quoi qu'il en soit, malgré les orages. Il ne dit pas qu'il n'y en aura pas. Les vents ont soufflé, les torrents sont venus, tous les efforts de Satan pour démolir les maisons, mais ce qui est entre nos mains, c'est la mise en pratique.
En Matthieu 5, quand le Seigneur dit « Vous êtes la lumière du monde », il précise qu'une lumière, la lampe, n'est pas pour être mise ensuite sous le boisseau, Matthieu 5, 14, mais sur le pied de lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Il y a donc dans la maison du croyant, particulièrement, une lumière. Et c'est sûrement là qu'elle doit commencer par briller. Et effectivement, il y aura une influence bénéfique pour chacun, parce que cette lumière, elle vient de la connaissance du Seigneur, elle vient de la présence même du Seigneur, de la connaissance de l'Écriture. Elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Et si les parents ont à cœur d'apporter cette lumière, les enfants sont baignés dans cette lumière. Et puis, c'est pour ainsi dire le modèle expérimental pour la vie publique. Il faut commencer par que notre lumière, que notre témoignage soit dans notre maison. De même que il est dit pour les conducteurs, pour les serviteurs plutôt, en 1 Timothée 2, entre autres qualités qu'ils doivent avoir, il faut qu'ils soient maris d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison. La maison, le foyer du chrétien est effectivement comme une pierre de touche de ce qu'il peut faire, et c'est un préalable à s'engager dans la gestion des affaires d'autrui et particulièrement dans ce domaine des choses de l'assemblée.
Il n'y a peut-être pas d'école de sanctification plus grande que celle du foyer, parce que on est confronté en permanence à des choix, et parce que dans l'intimité d'un foyer, c'est là qu'on voit vraiment vivre les différentes personnes, on se rend compte vraiment à qui on a affaire. Il n'y a pas la façade qu'il peut y avoir quand on est en situation publique. Et c'est peut-être pour ça que la parole dit, si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'assemblée de Dieu ? La maison, c'est une petite église, disait un père de l'église, en miniature, où effectivement, on apprend la patience, on apprend le pardon, on apprend à se respecter les uns les autres avec nos différences, avec nos besoins différents, avec nos états d'âme différents. Ce qui est important, c'est ce qui a été souligné dans Matthieu. Pourquoi tout ce verset qu'on a lu sur la maison en Matthieu 7 arrive à la fin du sermon sur la montagne ? Parce qu'il y a eu la doctrine avant, et toute la doctrine, c'est les 12 premiers versets du chapitre 5. Bienheureux ceux qui ont l'esprit du pauvre, ceux qui sont débonnaires, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui sont miséricordieux. C'est ceux-là qui peuvent faire vivre de façon tout à fait noble, je dirais, ce qui vient par la suite dans le sermon sur la montagne. On ne peut pas être une lumière, on ne peut pas être le sel de la terre si on n'est pas un bienheureux en esprit, un pauvre en esprit, si on n'est pas un débonnaire. Quelqu'un qui n'insiste pas sur ses droits, qui ne pense pas à lui, mais qui pense aux autres. Quelqu'un qui a faim et soif de la justice, qui aime la vérité, d'abord pour lui-même. C'est plus facile d'aimer la vérité pour les autres. Et c'est dans l'exercice quotidien de cela qui fait qu'un foyer sent qu'il y ait beaucoup de paroles, mais il y a une atmosphère. Vous savez, chaque foyer, c'est comme une fleur. Il a un parfum. Et le parfum d'une fleur, il s'exhale sans qu'on soit obligé de lui demander de le faire. C'est vrai qu'à certains moments de la journée, quand il y a du soleil, il y a plus de parfum. Mais chaque foyer a son parfum et il faut accepter autant de parfum que ce qu'il y a de fleurs. Ce qui est bien chez l'un n'est pas forcément aussi bien chez l'autre. C'est l'exemple personnel. Et c'est ce qui fait que nous sentons bien qu'on n'est pas très à l'aise pour commenter tous ces versets. C'est l'exemple qui, me semble-t-il, est le plus fort comme enseignement. Ce n'est pas tellement les paroles. Mais quelqu'un qui, des enfants qui voient vivre au sein de leur foyer, parmi leur père et leur mère, l'exercice du pardon, l'amour conjugal. On n'a pas besoin de leur faire de longs discours. Ils savent ce que c'est, ils le voient vivre. Et c'est aussi cela que le Seigneur nous demande.
Le foyer chrétien, c'est un tout. Il est composé des parents, bien sûr, composé des enfants, éventuellement, et peut-être aussi de ceux qui sont appelés à approcher de près ce foyer dans un sens. Ce qui me fait dire ça, c'est l'enseignement de Paul, en particulier dans les Éphésiens. Il donne une instruction pour chacun, n'est-ce pas ? Pour les maris, pour les femmes, chacun connaît les versets, je ne les rappelle pas. Pour les enfants et pour les esclaves de ce temps-là, bien sûr, on comprend bien. Mais si chacun dans le foyer, bien sûr, je dis tout de suite que la responsabilité dans un foyer, c'est les parents, peut-être même le père a priori. Mais je crois que cet ensemble, s'il fonctionne selon la parole de Dieu, il sera effectivement cette odeur, cette fleur que vient parler Daniel, et il sera en bénédiction. Peut-être on peut quand même relever ce qui est dit là, parce que c'est aussi très important. On connaît ces versets, Éphésiens 6. « Enfin, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » Et Paul cite le verset de l'Ancien Testament, « Honore ton père et ta mère. » Et puis, « Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. » C'est un verset aussi qui est là fondamental. Et peut-être, nous qui avons eu des enfants, nous n'avons peut-être pas réalisé tout cela, élever, ne pas provoquer nos enfants, mais les élever dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. C'est une responsabilité qui est demandée en particulier au Père dans ces versets.
Ne provoquez pas ou n'irritez pas. On rejoint ce qu'on a vu en Matthieu 5. Bienheureux ceux qui procurent la paix. Le foyer est une occasion de mettre cela à l'accomplissement. On dira, mais moi je suis toujours paisible. Mais ce n'est pas le problème. Bienheureux non pas ceux qui sont en paix, mais ceux qui procurent la paix. Est-ce que je l'apporte à ceux qui sont autour de moi ? Bienheureux les miséricordieux, ceux qui sont capables de passer sur les choses, sans les ressasser, même s'il y a des choses pour lesquelles il faut pardonner, ceux qui sont capables de passer sur les choses. Nous savons combien ce n'est pas facile. Plus les relations sont proches, moins c'est facile, souvent. Il y a là des enseignements fondamentaux qui conditionnent la vie relationnelle et qui se gagent de cette construction. Il en est de même pour les exhortations. Si je regarde ce que Dieu dit à mon épouse en Éphésiens 5, j'ai perdu d'avance. Dieu me dit, tu regardes ce qui est écrit pour toi. Dès que nous regardons à la responsabilité des autres, et c'est vrai dans un couple aussi, nous avons perdu d'avance. C'est voir chacun pour soi ce que le Seigneur nous demande. Marie, aimez vos femmes, etc. Et les choses, si chacun en est là, le Seigneur peut donner une bénédiction et répondre aux besoins du foyer. Et avec cette grande pensée quand même qui sous-tend aussi tout Matthieu 5, c'est bienheureux. C'est le grand titre, bienheureux. Vous voulez être heureux, voilà. Il n'y a pas de plus grande joie, sans nul doute, que sur la terre qu'un foyer chrétien. Les relations même que Dieu a créées, on peut le dire. Bienheureux, vous êtes bienheureux.